franceinter.fr.
Française, Français, Belge, Belge, public chéri, mon amour.
Ceci est une émission de radio.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Les jardins zoologiques.
Paris possède désormais l'un des plus beaux jardins zoologiques du monde. Plus de 2000 animaux vont y vivre dans un cadre quasi naturel où l'on s'était forcé de leur donner l'illusion d'un paysage sauvage. La girafe en est la première ravie et dirait volontiers sa joie si la nature n'avait omis de lui donner des cordes vocales. Quant aux dromadaires, ils se sont fait très mal juger le jour de l'inauguration, car c'est la bouche pleine qu'ils ont accueilli le président de la République.
D'abord, il y eut la ménagerie. Selon le dictionnaire de l'Académie de 1684, c'est le lieu où les princes tiennent des animaux rares et étranges. Le mot jardin zoologique vient ensuite d'Angleterre au XVIIIe siècle. On l'abrège en zoo au XIXe. Ça vous a une allure plus démocratique. C'est le président de la République qui inaugure ainsi, on l'entendait, le zoo de Vincennes en 1934. Même si le cortège qui l'entourait portait fièrement le haut de forme, l'objectif n'était plus de manifester la munificence du pouvoir. L'impératif, c'était celui des temps démocratiques, le taux de fréquentation. Cela demande une belle capacité d'adaptation. Le public exige d'être saisi par l'extraordinaire et le spectaculaire, mais sans courir le moindre risque. Et il veut du naturel sans que les commodités urbaines soient négligées. Le zoo de Vincennes, qui rouvre, offre donc davantage de paysages végétales qu'autrefois. Il y a cependant un rocher chauffant pour Nero, le lion de la zone Sahel-Soudan. Plutôt que de zone, d'ailleurs, il convient de parler de biozone. Et Nero, qui pourtant n'a jamais connu que la vie en zoo, est désormais qualifié d'ambassadeur du monde animal. C'est un peu la fonction que remplit en histoire Éric Baratet. Bonjour.
Bonjour.
Vous défendez toujours la recherche, tant que c'est possible, du point de vue des animaux. Alors, vos travaux sont toujours au carrefour de la rencontre de l'homme et de l'animal, de la rencontre de l'homme et de la nature, du sauvage et du civilisé. Il y a longtemps, avec Elisabeth Ardouin-Fugier, vous avez publié un livre à la découverte sur les jardins zoologiques, de nouveau disponible en version imprimée et numérique. Et votre dernier travail ?
Alors, le dernier travail porte sur les animaux dans la Première Guerre mondiale, en essayant de voir pas simplement la manière dont les hommes les ont utilisés, mais la manière dont les animaux ont vécu cette guerre, physiquement, psychologiquement, lorsque c'est possible. Et ça permet donc de découvrir d'autres vies qui ont fait cette guerre. Et puis aussi, ça permet de mieux comprendre les relations avec les hommes.
Comment pense un cheval qui charge ?
Eh ben, difficilement, parce qu'il se retrouve au milieu de la poussière, il ne voit plus rien, sa vue est concentrée de plus en plus sur les corps et les cadavres des hommes et des bêtes qu'il faut éviter, et il est cantonné par les autres chevaux. Et ça fait comprendre pourquoi on est obligé de charger groupé. Ça peut paraître aberrant de charger groupé devant les mitrailleuses allemandes qui fauchent 80% du groupe, mais si on ne chargeait pas groupé, les chevaux, si on chargeait en ligne par exemple, les chevaux ne seraient pas emmenés en groupe et ils repartiraient très vite dans l'autre sens. Donc on ne pourrait pas charger.
Alors revenons, si vous le voulez bien, au zoo, mais ne perdons pas ce point de vue qui est celui des animaux. Bah, un animal qui est dans un sérail, premier terme du vocabulaire, il est quand même assez content parce que d'abord il est chez un prince, puis il voit passer du beau monde.
Ah oui, parce que les sérails, c'était uniquement réservé aux princes en Italie, en France. C'est un terme qui s'impose au Moyen-Âge. Souvent, ces animaux étaient disposés dans les douves des châteaux, voire dans les écuries, ou alors même dans les grandes salles à l'intérieur des châteaux. Et ils étaient chargés de montrer la puissance du prince, qui peut acheter des animaux qui coûtent extrêmement cher. Et le caractère extraordinaire de l'animal dit évidemment le caractère extraordinaire du propriétaire.
Et alors celui qui se retrouve, deuxième mot du vocabulaire, dans la ménagerie de Louis XIV par exemple, Versailles dès 1664, il est toujours content parce que maintenant il a lui-même sa petite cour.
Oui, et puis il peut admirer le roi soleil quand même, qui vient de temps en temps.
Alors il y a la cour des cigognes, la cour des demoiselles, la cour des pélicans, la cour du rondeau, la cour des autruches, etc.
Oui, et ces cours sont disposées en éventail, autour d'un petit château de plaisir qui a une grande salle au premier étage. Et c'est là que le roi et la cour viennent dans cette salle pour admirer les animaux qui sont dans les différentes cours en éventail. Et le roi n'a qu'à tourner la tête pour regarder de fenêtre en fenêtre les différents animaux. Et alors là, il y a une lecture politique qui est tout à fait comprise par les contemporains. Les animaux viennent se soumettre autour du roi, exactement comme l'eau dans les jets d'eau se soumet à la domestication humaine, les végétaux dans les jardins à la française sont soumis à la rationalité, et comme les sujets aussi humains doivent se soumettre au roi.
Au théâtre du sauvage, c'est sur la scène, le salut des acteurs animaux. On va entendre ici le récit de l'arrivée de la girafe. Un peu plus tard, par rapport à la période que nous évoquons, nous sommes en 1826-1827, sous un roi bourbon, Charles X. On n'a pas parlé de la provenance des animaux. Ils pouvaient acheter dans le commerce, on pouvait faire des expéditions pour aller les chercher. Très souvent, c'était des cadeaux.
Très souvent des cadeaux, mais aussi des voyages de marchands ou alors d'explorateurs aussi qui reviennent avec des animaux morts, naturalisés ou alors des animaux vivants. Mais ça coûte encore très cher de faire venir des animaux vivants hein, parce que la mortalité est énorme, on ne sait pas comment les nourrir et il n'y a que la grande aristocratie ou les princes qui peuvent s'offrir de tels animaux.
Quand la girafe arrive, met le pied sur le sol français à Marseille, on se dit on va rentabiliser la chose. Jusqu'ici, on a parlé des marges des rois, mais il y avait aussi les montreurs d'animaux dans le Moyen-Âge, dans l'époque moderne, dans les foires, qui gagnaient de l'argent. C'est ce qui va arriver avec la girafe qui a été offerte au roi Charles X en 1826.
Oui, alors ces montreurs, c'est l'autre manière de voir, à côté des ménageries, l'autre manière de voir des animaux exotiques. Par exemple, au XVIIe siècle, l'éléphant en skène est promené dans toute l'Europe. Et les foules, évidemment, se précipitent pour le voir. Alors, c'est payant. Il y a une palissade. Chaque soir, on construit une palissade pour éviter que les gens puissent voir l'animal. Et il faut payer pour pouvoir le rentrer.
On peut se mettre dans la cervelle de la girafe. Quand, par exemple, on lui met un imperméable boutonné pour la protéger de la pluie, qu'est-ce qu'elle pense ?
Elle est peut-être pas mal parce que l'humidité, c'est pas forcément ça. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des naturalistes qui ont décrit cette girafe. Et avec ces textes, on peut très bien voir comment elle a vécu son voyage de Marseille à Paris. Le stress, les incompréhensions réciproques, le fait qu'elle arrive à survivre parce qu'elle a devant elle un couple de vaches. Et ce couple de vaches la rassure. Et la seule fois où on oublie de lui mettre ce couple de vaches, c'est à Lyon, lors d'une représentation Place Bellecour. Elle prend peur, elle s'enfuit. Et tout le monde se met, le public et girafe, se met à tourner autour de la statue de Louis XIV.
Mais la vache permet d'avoir du lait aussi.
La vache permet d'avoir du lait. C'est elle qui nourrit la girafe. Et puis les vaches sont de la même famille que les antilopes avec qui les girafes vivent dans la savane.
Alors voici la fin des aventures, parce qu'elle finit par arriver à Paris, de Zarafa, qui vient d'Égypte.
Alhamdoulillah, Hassan, tu as réussi. Elle est magnifique.
Je suis heureux qu'elle vous plaise, votre Altesse.
On ne peut pas faire un plus beau cadeau.
L'idée était un peu folle, mais pour libérer son pays de l'envahisseur turc, le pacha d'Égypte voulait demander de l'aide au roi de France. Et Zarafa devait être le cadeau qui le ferait accepter.
J'espère qu'elle plaira autant au roi de France.
Allons, monsieur de Saint-Hilaire, ne nous faites pas attendre plus longtemps.
Voilà, votre majesté. Cadeau du pacha d'Égypte.
Saint-Hilaire, qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Une girafa camélopardalis.
Je
veux dire, une girafe, votre majesté.
La girafe possède à la fois la taille du chameau, la tête du cerf, la peau d'une panthère, les sabots d'une vache, oui, la queue d'un oiseau.
Oh, mais quelle belle girafe !
Vive la girafe du roi !
Film d'animation de Rémy Besançon et Jean-Christophe Lié. C'est beaucoup amusé, Ilinka Negulescu, qui ne rit pas tous les jours à la marge de l'histoire pour préparer cette émission. Charles X, c'est le dernier des Bourbons, et la girafe, il ne va pas la mettre à Versailles. Il n'y a plus de ménagerie à Versailles, il n'y a plus de roi à Versailles. Il va la mettre au jardin des plantes. à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on transfère les animaux de la ménagerie royale à un lieu public, un lieu d'éducation politique même, comme le Jardin des Plantes?
Oui, alors tout simplement, la ménagerie de Versailles a été détruite à la Révolution, en grande partie parce qu'on considérait que c'était un symbole de l'oppression royale, un symbole de l'absolutisme et que l'on ne voulait plus voir. Et il y a des textes, d'ailleurs, qui vont interdire la détention en captivité des animaux. C'est l'époque aussi, à Paris, où l'on va interdire les montreurs d'animaux.
Parce que Cépède dit, on va passer du théâtre du despotisme à un lieu d'éducation où sont montrés des animaux paisibles qui sont donnés comme modèle aux citoyens laborieux.
Exactement. Ce qu'on veut, ce ne sont plus des carnivores, image de la cruauté et l'image de la monarchie. On veut des herbivores. Il y a même un projet de création de parcs zoologiques à Paris, au Jardin des Plantes, où les animaux seraient en liberté. Et on a un texte dithyrambique disant que le soir, on pourrait voir comme ça les lions aller se laver dans la Seine. Ça n'a pas été créé. Et à la place, on a créé la ménagerie qui porte encore donc ce nom de ménagerie du Jardin des Plantes, avec une rupture importante, puisque là, les animaux ne se rassemblent pas autour du roi, mais les animaux sont dispersés dans un jardin à l'anglaise. Et c'est aux visiteurs de se promener le long des sentiers. Et à mesure qu'ils se promènent, ils découvrent des cages, des enclos, etc.
Avec des lieux pour les espèces, Zarafa va aller à la rotonde des herbivores. Et on classe par espèce parce que la démarche est scientifique. C'est un naturaliste, Geoffroy de Saint-Hilaire, qui accompagnait Zarafa tout le long du chemin.
Exactement.
Et le Jardin des Plantes, c'est le lieu des naturalistes.
Le Jardin des Plantes dépend du muséum, la ménagerie dépend du muséum. Il y a à la fois un but pédagogique et scientifique qui, en réalité, n'est pas très réel. Parce qu'à l'époque, ce qui intéresse les scientifiques, c'est l'anatomie et la morphologie. Donc, ce qui intéresse les scientifiques, ce sont les animaux morts. Alors, ils vont très peu voir les animaux vivants au Jardin des Plantes. Par contre, dès qu'un animal meurt, là, ils se bagarrent pour avoir la dépouille.
Cessez d'être critique, Éric Baratet. Buffon aimait beaucoup les animaux en liberté. Il avait fait un espace assez libre à Montbard, autour de son château. C'est Puis, il y a bien pire après. Alors, nouvelle étape, 19e, mais le 19e bourgeois et colonial. Nous sommes en 1872.
Le lion de Tarascon et le lion de l'Atlas en face, l'un de l'autre. D'un côté, Tartarin, debout, le jarret tendu, les deux bras appuyés sur son rifle. De l'autre, le lion. Un lion gigantesque, vautré dans la paille, l'œil clignotant, l'air abruti, tous deux calmes et se regardant. Le lion eut tout à coup un mouvement de colère. D'abord, il renifla, gronda sourdement, écarta ses griffes et tira ses pattes. Puis il se leva, dressa sa tête, secoua sa crinière, ouvrit une gueule immense et poussa vers Tartarin un formidable rugissement. Un cri de terreur lui répondit. Tarascon, affolé, se précipita vers les portes. Tous, femmes, enfants, portefaix, chasseurs de casquettes, le brave commandant bravida lui-même. Seul, Tartarin de Tarascon ne bougea pas. Il était là, ferme et résolu devant la cage.
L'adaptation d'Alphonse Daudet avec Henri Wilbert dans le rôle de Tartarin. Le Tartarin qui prend des initiatives, qui va aller chercher des bêtes. D'ailleurs, les zoos maintenant vont être de plus en plus d'initiatives privées et fondées sur l'espace colonial.
Oui, il y a une spécialisation des jardins zoologiques dans la seconde moitié du 19e siècle. On voit ça en France, en Angleterre, mais aussi ensuite en Allemagne, etc. On va chercher essentiellement les animaux dans les colonies que l'on est en train de conquérir. Et l'idée, c'est de montrer le zoo devient la vitrine de ces terres que l'on est en train de conquérir. Et donc, on y expose des animaux, mais on expose aussi des populations humaines, puisque c'est l'époque où vont se développer aussi les exhibitions ethnographiques dans les mêmes lieux, au Jardin des Plantes ou dans d'autres zoos, où on présente donc la nature et l'humanité conquise par l'Europe triomphante.
Il y a des zoos en Afrique ?
Il y en a à partir de l'entre-deux-guerres et surtout à partir de 1950. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on a importé littéralement le modèle occidental, puisqu'on y présente non pas, par exemple, des animaux européens, mais on y présente des animaux africains. Hein, ce qui peut paraître bizarre, parce que nous, dans les zoos, on ne présente pas d'animaux européens, sauf l'ours et le loup. Là, en fait, on adopte le modèle occidental dans toute sa totalité.
Alors, un historien qui adopte le point de vue animal doit être extrêmement critique sur le commerce des animaux à l'époque coloniale, sur la manière dont le port d'Anvers, qui est par exemple pionnier avec le port de Hambourg, traite dans les hangars les animaux.
Alors c'est le gros problème des jardins zoologiques depuis le XVIe siècle, c'est qu'il faut aller capturer, il faut transporter, il faut amener dans les ports, il faut ensuite redistribuer. Et ça entraîne une énorme mortalité de ces animaux. Il a été calculé, par exemple, il n'y a pas très longtemps, que pour des gorilles de l'Ouest, pour un gorille de l'Ouest africain arrivé en Europe, arrivé vivant dans un zoo, il fallait à peu près une trentaine de morts. C'est-à-dire entre ceux, la famille abattue pour pouvoir prendre le petit, et puis tous ceux qui meurent durant le transport. C'est évidemment une surmortalité. Et puis ensuite, il y a une surmortalité dans les zoos même, parce que ces animaux sauvages ont beaucoup de mal à s'adapter.
Mais les critiques provoquent des transformations. Alors nous sommes maintenant au tout début du XXe siècle. On avait deux modèles, le jardin des plantes au cœur de la ville, et puis les zoos privés qui sont déterminés par l'espace colonial. Des transformations vont se produire. Celle du zoo de Vincennes, par exemple, qui est à l'intersection des deux modèles, puisqu'il sera finalement placé sous la houlette du jardin des plantes, avec comme impératif une fréquentation commerciale très importante, 1931, 1934. Et j'allais ajouter la date de 1937, c'est une étape un peu importante, parce qu'il y a Fernandel qui chante le zoo de Vincennes.
Bien des tourtereaux, c'est l'usage, quand ils veulent parler d'amour, s'en vont rêver sous les ombrages, aux Tuileries, au Luxembourg. Moi je connais, c'est véridique, un endroit bien moins fréquenté, c'est le jardin zoologique, aussi le dimanche pour fierté, je vais au zoo avec Zizi et l'on se promène au ralenti devant la cage des kangourous. On se dit des mondous près de l'ours Martin, on se prend la main près de l'otarie, on se sourit et près des phoques je me sens loufoque, mon cœur fait toc toc sur mon âme devant l'hippopotame. Je lui dépeins ma flamme. Devant le héron, nous nous serrons. Devant le bison, nous nous bisons. L'amour nous a sans contredit. Au zoo avec Zizi.
Au sein de chaque rocher, les gardiens préparent le repas des bêtes qui attendent impatiemment. C'est le cas des grands chimpanzés en cage, Black et Chouquette, laquelle porte sur son visage autant de taches de rousseur que si elle revenait de vacances au bord de la mer. Et la même heure, je vois aussi, en liberté enfin sur leur île, les quatre jeunes chimpanzés, Juliette, la Noire, Lulu, Aka et Julie. À peine dehors, tous s'étonnent de n'avoir pas encore reçu leur tartine.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
L'histoire des jardins zoologiques avec Éric Baratet, qui est en compagnie d'Elisabeth Ardouin-Fugier, a publié, et ça vient d'être réimprimé, La découverte, une histoire des jardins zoologiques. Qui ne connaissait pas, connaissiez pas la chanson de Fernandel. Alors je rappelle la date, 37. Quant à l'extrait de l'émission de Pierre Ichac, c'est toujours formidable, Pierre Ichac, je le dis chaque jour, c'est immortel, c'est intemporel, pas besoin de donner la date. Alors, revenons avant Fernandel, 31, 34. 31, Vincennes est préfiguré par l'exposition coloniale, par le zoo de l'exposition coloniale.
Oui, c'est au départ un zoo d'exposition coloniale, donc pour montrer des animaux des colonies. On est tout à fait dans la même tendance. Et puis l'idée va se développer d'en faire un zoo
définitif,
plus vaste. Et c'est le projet du muséum qui l'emporte.
Parce qu'il y a un projet privé.
Il y a un projet privé et il y a le projet public, puisque le muséum gère déjà la ménagerie du Jardin des Plantes et qu'il veut garder la main sur ce nouveau jardin zoologique, comme il avait aussi la main sur le zoo du Bois de Boulogne,
qui est ensuite
le jardin d'acclimatation.
Mais critique comme vous êtes, Éric Baratet, vous allez dire que le programme scientifique que défendait Bourdelle, l'administrateur du muséum, n'était qu'un habillage.
Habillage, non, parce que ces gens-là ils croyaient tout à fait. Hein. Mais quand on regarde exactement le résultat scientifique de ces jardins zoologiques, c'est toujours assez réduit. Hein. Et finalement, les jardins zoologiques, c'est avant tout une présentation, une exhibition, un divertissement pour la population.
C'est aussi un programme architectural. Au moment de l'inauguration, l'architecte Le Trône est félicité par le président Lebrun. Il a en fait beaucoup emprunté aux Allemands.
Oui, la nouveauté Vincennes est une énorme nouveauté pour les Français. Mais en fait, le modèle n'est pas du tout inventé par les Français. C'est une reprise, quasiment un décalque du zoo révolutionnaire. Le zoo du XXe siècle est inventé près d'Hambourg, à Stellingen, par Hagenbeck, qui est un Allemand, qui est un directeur de cirque, marchand et capteur d'animaux, qui fonde donc un zoo près de Hambourg, et c'est un zoo totalement révolutionnaire parce qu'il essaye, pour répondre justement aux critiques montantes sur les zoos-prisons, que le public ne supporte de moins en moins, il a l'idée d'enlever le maximum de grilles et de les remplacer par des enclos, par des fossés, pardon. Et puis la deuxième nouveauté, il a l'idée de théâtraliser, de végétaliser, de mettre en scène véritablement ces enclos, pour faire comme s'ils étaient des espaces africains, par exemple, ou d'Amérique. Et ça a un énorme retentissement, ça attire énormément les populations, à Hambourg d'abord, puis ensuite à Vincennes, évidemment.
Pour le plaisir de l'œil, qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs pour le plaisir du nez? Est-ce que la vitre est déjà utilisée à cette époque-là?
Alors, très peu encore à cette époque. La vitre, c'est surtout... C'est pour les odeurs, mais c'est surtout à partir des années 80, la vitre.
Ouais. L'œil, il se satisfait parce que, dites-vous, il y a un exhibitionnisme mutuel. Expliquez ça.
Oui, parce que, alors d'abord, le public a l'impression de vraiment, avec ce jardin zoologique de Vincennes où il n'y a plus de barreaux, il a l'impression d'arriver en Afrique. Hein. D'ailleurs, le premier extrait que vous avez donné en début d'émission le dit très bien. On va chez les animaux, on va en Afrique, on va en Amérique. Et pour les animaux, donc on vient voir les animaux. On se met souvent en scène soi-même, on crie, on appelle les animaux pour se faire voir, pour que l'animal vous regarde. Et puis, en sens inverse, les animaux eux-mêmes, certains animaux sont stressés par ce public, mais d'autres, au contraire, ils trouvent une source d'activité, ça permet d'éviter la déprime et sont tout à fait intéressés par ce public qui passe.
Ça permet d'éviter la déprime. Ils sont contents, les singes, quand on les met autour d'une table, une serviette autour du cou, et ils mangent. Dans le très beau volume que Somogy publie avec le muséum, il y a une photo comme ça des années 30, du premier zoo de Vincennes, avec un commentaire horrifié. On ne verrait plus des choses pareilles. Sous-entendu, c'est de l'anthropomorphisme, c'est scandaleux.
Alors, c'est très répandu, cette pratique-là, entre 1880 et la Seconde Guerre mondiale, parce que... On a l'impression que ces animaux qui s'habillent, par exemple les chimpanzés qu'on va à Londres, on fait la même chose, on les habille à l'anglaise, on les fait manger une table, on leur donne à manger des plats anglais, vous rendez compte, les pauvres. Et ben c'est un moyen de dire que ces animaux acceptent de se civiliser. Et à l'époque, il y a un mot d'ordre qui court au 19e siècle, pour les animaux sauvages, il ne peut y avoir que deux solutions. Soit ils acceptent d'être acclimatés, voire domestiqués, soit ils seront exterminés. Mais l'idée qui va s'imposer au 20e siècle d'animaux sauvages que l'on maintient dans leur milieu et qu'on respecte tel quel, elle n'est absolument pas à l'ordre du jour jusqu'aux années 1950.
Enfin, vous me direz qu'aujourd'hui, c'est une attitude inverse. On leur demande de paraître sauvages aux singes pendant la journée et le soir...
Eh ben, le soir, alors, dans certains jardins zoologiques américains, pour les orang-outans, hein, on leur donne des iPads pour éviter qu'ils dépriment. Et ils sont très bons au niveau iPad, hein, logiciel de jeu, logiciel de dessin, bientôt sans doute les messages. Attendons-nous à recevoir un jour un mail d'un orang-outan. Et ça montre évidemment que ces animaux-là, ils sont quand même en captivité. Ce ne sont plus des animaux sauvages et qu'il y a besoin de les tenir en activité pour qu'ils ne trompent pas dans
le stress. Ça ne montre rien du tout parce qu'on ne le montre pas. Surtout, il ne faut pas le montrer. Ça.
Il ne faut pas le montrer, puisque tout l'argumentaire des jardins zoologiques à partir du milieu du XXe siècle, c'est de dire que les zoos sont des ambassades de la faune sauvage.
Vous vous souvenez qu'avant de s'intéresser à la population de Radio France, Nicolas Philibert s'était intéressé à Nénette.
Nénette, née à Bornéo en 1969.
Elle a 40 ans, tu te rends compte?
Je me demande comment il faudrait retenir l'attention de Nénette. Parce que de voir comme ça... Cette galerie de regards brillants, de regards tout le monde la pompe, quoi. Elle est pompée en curiosité. Et elle manifeste quelque chose de très, très, par rapport à ça, de très, très réduit, quoi. Elle a tout vu. Elle nous a tous vus, déjà. Mais elle va rien faire pour nous épater, quoi. Elle va rien faire pour se défausser de cette oisiveté-là, quoi. Elle n'a à se méfier de rien. Elle n'a pas à lutter ou à résister ou à inventer des solutions pour faire face à. Elle est comme une rentière, quoi, une rentière victime de sa rareté. Elle est protégée parce qu'elle est rare, mais si elle était plus nombreuse, elle serait encore dans les arbres, j'imagine.
Alors, il parle de l'exhibitionnisme mutuel, Nénette la star, là, Nicolas Philibert, et il pose la question des espèces menacées. Alors, j'essaye de me mettre dans la peau d'un directeur de zoo. La justification devant vous, qui est toujours sceptique, Eric Baratet du zoo, c'est formidable pour la protection des espèces menacées.
Alors c'est vrai pour quelques espèces, effectivement, on ne peut pas nier que les milieux sont de plus en plus détruits et sans doute on sauvera quelques espèces comme ça grâce aux jardins zoologiques. Il faut penser quand même que ces espèces-là ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan des espèces menacées. En plus, on choisit les espèces qui ne sont pas forcément les plus importantes pour les écosystèmes, puisqu'on choisit les espèces qui sont en bout de chaîne et non pas les espèces fondamentales du intermédiaire. Et puis, c'est l'autre nuance, c'est que ces animaux-là, maintenant, on n'a plus le droit de prélever dans la nature. Donc, on les fait se reproduire de génération en génération. Et ces animaux-là subissent un phénomène qui est maintenant accepté par tout le monde, de dérive génétique. Autrement dit, ils vont s'éloigner petit à petit de leurs congénères sauvages et ils subissent un processus de domestication rampante.
Oui, mais les zoos sont si nombreux et pour beaucoup d'entre eux labellisés, atteignant une certaine qualité, qui forment réseau et que pour éviter les dérives génétiques, la consanguinité, on organise des échanges.
Tout à fait. Il y a un programme d'échange qui permet de, non pas d'éviter, mais de limiter la consanguinité. Mais on sait très bien qu'on n'a pas assez d'individus pour limiter ou éviter la dérive génétique. Et donc, en fait, on va sauver ces animaux-là. Il y a peut-être des espèces que l'on va sauver, mais ce ne seront plus des animaux sauvages. Et donc ça rentre évidemment un peu en contradiction avec toute la justification sur le zoo comme vitrine de la faune sauvage. En fait, ces animaux ne sont déjà plus des animaux sauvages.
Oui, mais je continue à raisonner, je ne sais pas, comme Françoise Delors, quand elle a élargi le petit parc d'oiseaux de Beauval pour en faire le zooparc, il y a de ça une trentaine d'années, elle disait « on va réintroduire ». Alors, les espèces dans la nature.
C'était très à la mode, ça, il y a 20-30 ans. Les directeurs de jardins zoologiques sont maintenant beaucoup plus prudents, justement à cause de cette dérive génétique. On sait très bien que ces animaux ont énormément de mal à se réintroduire dans la nature. Et le nombre d'espèces que l'on a réintroduites se limite au doigt des deux mains. Hein.
Bon, alors qu'est-ce que je peux dire encore? Ça a quand même pas mal réussi, les zoos, parce qu'il y a plutôt surpopulation dans les zoos. Les animaux, ils vivent longtemps, ils vieillissent.
Alors, il y a des animaux qui battent des records de longévité, mais ce sont des individus. Au niveau des moyennes, on a encore des surmortalités d'animaux, notamment lors des premières années, d'animaux qui n'arrivent pas à s'adapter.
On a quand même des animaux si nombreux que pour certaines espèces, quand ils ne peuvent pas se mêler à leurs congénères, qu'on ne peut pas les expédier ailleurs, on pratique l'euthanasie. Enfin, c'est plus difficile de parler de l'euthanasie vis-à-vis des animaux parfois que de l'euthanasie vis-à-vis des hommes.
Oui,
ça provoque scandale.
Bien sûr, parce que le programme d'élevage doit limiter justement la dérive génétique. Donc on se retrouve avec des animaux qui sont trop proches d'autres, on ne peut plus les échanger. Et on se retrouve évidemment dans une impasse.
En tout cas, il y a deux fois plus d'animaux à Vincennes qui rouvrent samedi qu'il n'y en avait au moment de la fermeture en l'an 2008. Merci à vous, Eric Baratet. Votre livre aux éditions de La Découverte, vos bêtes des tranchées aux éditions du CNRS. L'émission a été préparée, je l'ai dit, par Elinka Negulesco, avec à la réalisation Jacques Sigal et à la technique Julien Dumont.